le réseau Afrique Santé de la Voix de l'Amérique propose.
Votre santé, votre avenir.
Votre santé, votre avenir est exclusivement axé sur la lutte contre le sida en RDC.
Au micro, Khalil Gueye. Dans ce numéro de Votre santé, votre avenir, nous vous proposons un entretien exclusif avec M. Jean-Luc Ella, président du réseau national des organisations à assises communautaires, RENOAC, en RDC. M. Luc Ella, séropositif lui-même, est un leader engagé dans la sensibilisation et dans la prévention contre le VIH. Jean-Luc Ella, vous êtes connu comme un activiste célèbre en RDC, dans la lutte contre le VIH. Comment ça s'est passé tout ça? Racontez-nous un peu votre histoire.
Bon, vraiment, ce n'était pas facile, parce que j'étais, un grand monsieur, quand même, j'étais délégué commercial dans cette ville. J'ai travaillé avec presque toutes les grandes sociétés ici. Alors, vous voyez, et puis entre-temps aussi, j'étais ce qu'on appelle chez nous Mouyangili, donc dans l'église catholique, il y a des petites églises dans le quartier où j'étais chef là-dedans. Et puis quand on m'a appris que j'étais séropositif, vous voyez ce que ça allait faire. Je me suis demandé qu'est-ce que je vais dire à ces gens-là, comment est-ce que je vais me comporter, comment est-ce que je serai accueilli, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de médicaments. Et directement, j'ai songé à la mort. Je savais que la mort était certaine. Et quand on vous annonçait le résultat, 3 mois après, à toi tu disparaissais. C'était ça. Vraiment, j'ai eu des problèmes, tout ça. Les problèmes étaient d'abord de convaincre mes enfants, parce que c'était à ce moment-là, ma première épouse était déjà morte. J'étais resté célibataire avec 8 filles. Vous voyez ce que ça fait? Je dis, vrai, il faut les faire étudier, tout ça, ainsi de suite. Et quand je pensais à ça, j'ai tombé malade et pourtant je n'étais plus malade. Jusqu'à présent, je me demande de quoi est-ce que je souffrais. Quand quelqu'un venait me voir, je dis, je suis malade. Et pourtant, j'étais plus malade. Mais heureusement que les patrons qui travaillaient avec moi, parce que c'est moi qui amenais de l'argent dans la société, c'est moi qui partais vendre des pneus, c'est moi qui partais vendre des téléviseurs, parce qu'on partait dans des sociétés proposer des téléviseurs où on pouvait payer au moins 3 mois, avec l'échéance des 3 mois, on voit votre salaire et tout ça. Comme j'amenais de l'argent, les types ne voulaient pas m'abandonner parce que j'étais quand même en bonne santé à cette époque-là. Mais moi-même, je me sentais diminué, je me sentais que j'étais malade et pourtant je n'étais plus malade. Vraiment, ce n'était pas facile à prendre, c'était très difficile. Alors, bien après, il y a un ami qui travaille aussi avec moi ici, est venu me voir, je lui ai raconté le problème. Il m'a dit, mais non, moi je suis dans une association ici, hein, qui réconforte les personnes vivant avec le VIH/SIDA, qui s'appelait Femmes Puisses à l'époque. Nous sommes partis là-bas, après on est resté là-bas un certain moment, et puis nous sommes allés au CTA Kabinda chez MSF Belgique. Et c'est là où je me suis identifié comme leader, parce qu'on cherchait quelqu'un qui devrait rassembler les autres pour que celui-là puisse essayer de mettre les autres ensemble et échanger les expériences de la vie positive. Alors je l'ai fait. Parce qu'au départ, c'était difficile. Parce que moi-même, à cette époque-là, j'étais aussi clandestin. Je ne voulais pas me faire voir. À cette époque-là, personne ne voulait dire que moi, je suis personne vivant avec le VIH/SIDA. Mais ce monsieur-là, qui s'appelait Dr Oim, un sujet belge, nous a dit non, si vous voulez sortir de l'auto-stigmatisation, nécessairement, vous devez vous mettre ensemble, vous échanger les expériences, et à ce moment-là, vous allez sortir de l'auto-stigmatisation et vous allez combattre la stigmatisation et en même temps vous allez sortir de la clandestinité. Et je suis sorti de la clandestinité avec un groupe de 10 PVV jusqu'à, nous sommes allés 10, 50, 100, 200 et puis à ce moment-là c'est parce que nous avons créé ce qu'on appelait des groupes de support.
Vous êtes combien maintenant?
Mais aujourd'hui nous sommes 2800, ici à Kinshasa seulement. Mais nous sommes dans d'autres provinces. Nous sommes par exemple dans la province orientale, nous sommes dans la province de Bakongo, nous sommes dans la province de Katanga, nous sommes dans la province de Nord Kivu et nous sommes dans la province de l'Équateur. Donc nous sommes presque dans 6 provinces.
Aujourd'hui, vous êtes connu comme un leader qui fait la promotion de la sortie de la clandestinité?
Vraiment, je vous assure, tout d'abord, quand vous sortez de la clandestinité, ça vous libère. Donc, vous voyez, au lieu de se cacher, au lieu de dire, bon, quelquefois, quelqu'un vous regarde, vous pensez qu'il est en train de me regarder parce que c'est séropositif. Mais quand vous sortez de la clandestinité, vous êtes libéré. Vous êtes libre, vous parlez avec les gens comme il les faut. Et puis, tout d'abord, nous, on pensait que si tu parles de ta séropositivité, les gens vont te rejeter. Mais aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Les gens ont toujours besoin de moi. Ils viennent me voir quand ils ont des problèmes. Et surtout que je suis coordonnateur national d'un grand réseau congolais ici qui s'appelle RENOAC, Réseau National des Organisations Assises Communautaires des Personnes Vivant avec le VIH-SIDA. Et je vous assure qu'aujourd'hui, ici à Kinshasa, nous avons moins 68 OAC. Et ces OAC-là regroupent ce que nous appelons disons que pas toutes les PV, mais les PV qui sont sortis de la clandestinité. Donc tu peux parler avec moi, tu parles avec un autre, tout ça. Vraiment, je vous dis que ça fait du bien. Ça fait du bien tout d'abord à toi-même. Et ça fait du bien aussi aux autres pour qu'ils ne puissent plus dispatcher la maladie. Ça vous donne des orientations nouvelles pour dire qu'écoute, le VIH-SIDA s'arrête ici. Ça ne sort pas de chez moi pour aller ailleurs. Vraiment, c'est un vrai combat. Et puis, je vous dis que si vous voulez tout d'abord faire une bonne prévention, la bonne prévention, c'est la bonne prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH-SIDA. C'est ça la bonne prévention. Je crois que vous n'ignorez pas que moi, si quelqu'un, c'est pour ça que quand on était avec lui, je lui parlais qu'aujourd'hui, c'est surtout la charge virale. Quand votre charge virale a trop baissé, vous voyez, vous avez moins de chances de transmettre la maladie. C'est très, très important. Si, disons que la prise en charge est bonne, et la prévention aussi sera bonne. Parce que qui sont ceux qui sont en train de transmettre les maladies? Ce sont les personnes infectées. Mais si les personnes ne sont pas infectées, ils ne vont pas transmettre la maladie. Vraiment, c'est très, très important. La solution est de conscientiser les jeunes filles et les jeunes femmes. Leur dire, par exemple, parce que souvent, on nous dit maintenant, ce sont des difficultés qui font que les jeunes filles puissent aller faire la débauche. Mais c'est beau bien. Tu peux sortir avec un garçon qui te transmet la maladie. Il te donne $50. C'est ce que nous disons toujours aux filles. Mais avec $50, est-ce que tu peux te faire soigner durant toute ta vie? Parce que rien n'empêche que demain, peut-être, aujourd'hui, nous avons une prise en charge gratuite. On ne sait pas ce qui nous attend le lendemain. On peut dire que non, c'est payant. Même pas si nous avons les ARV qui sont gratuites. Mais il y a les infections opportunistes. Hein? Nous avons la tuberculose, par exemple, s'il faut faire la radio. Il faut au moins 20 000 francs congolais, 28 000 francs, 25 000 francs. Et puis si tu n'en as pas, est-ce que tu peux faire ça? Tu as la tuberculose, ça t'emporte. Et puis, et les $50, qu'est-ce que les $50 vont faire? Est-ce que là, vous avez augmenté les difficultés ou vous avez diminué les difficultés? C'est ce que nous disons aux jeunes filles. Il faut faire très attention. Il ne faut pas vous fier aux apparences. Et nous ne pouvons pas dire non, écoutez, il ne faut pas aller avec des hommes, non. Vous êtes libre, mais quand vous voulez partir, vous devez vous protéger. Il y a le préservatif. Ou tu fais l'abstinence, tu dis non. Moi, avec les hommes, c'est fini à partir de maintenant. Parce que l'abstinence ne peut pas toujours dire que c'est parce que quand tu es vierge, quoi. Tu peux aussi faire l'abstinence pendant que tu connais déjà des hommes. Tu dis, tu fais ton dépistage volontaire, tu trouves que tu es sain ou tu es saine. Tu dis, fini aujourd'hui. Moi, avec les hommes, c'est fini. Celui qui veut de moi, nous devons au moins... faire un couple, pour faire un couple, je dois connaître son statut sérologique. Moi, et lui aussi doit connaître mon statut sérologique. Comme ça, nous allons faire un petit foyer là. Vraiment, c'est très important pour les femmes et les jeunes filles.
Jean-Luc, là, vous avez 8 filles. Alors, comment vivez-vous avec vos filles et le VIH en famille?
En tout cas, en famille, au départ, c'était difficile. Disons que ma première difficulté était d'annoncer à mes filles que j'étais séropositif. J'ai pris un jour la cadette, hein, je lui ai appelé dans ma chambre, je lui ai dit, maman, si aujourd'hui on te dit que telle personne est porteur du VIH, qu'est-ce que tu vas faire de lui? Il dit, papa, il faut le brûler. Parce que s'il reste encore en vie, vous voyez ce que ça va faire. Hein? Quand on vous dit quelqu'un est porteur du VIH, mieux vaut le brûler. J'ai les 5 ans. Tu sais que moi aussi, à un certain moment, ça m'a affaibli. Mais j'ai pris le courage. C'est à elle la première à qui j'avais annoncé. Et que tu as dit que si une personne est porteuse de diversité, il faut le brûler. Mais moi, tu sais de quoi est morte ta maman? Je dis non. Je dis maman est morte du VIH. Et moi-même aussi, je suis porteur du VIH. Ah, puis c'est vrai, papa, puis c'est vrai. Et elle est venue, elle a commencé à me réconforter. Non, papa, Dieu est là, il ne faut pas penser que c'est parce que tu as le VIH que tu vas mourir, tout ça, Dieu va te protéger, tout ça, et ainsi de suite. Et après, je lui ai dit que tu peux annoncer à tes sœurs. Et toutes m'ont réconforté. Hein? Ils m'ont soutenu jusqu'à ce que je me suis remarié avec une séropositive aussi comme moi. Et je leur dis, pour les conseillers, je leur dis, voyez, moi je leur dis que vous voyez les paniers dans lesquels je suis, il ne faut pas que vous puissiez tomber aussi dans ces paniers-là. Et pour ne pas tomber dans ces paniers, vous devez vous protéger. Heureusement pour moi, disons que toutes aujourd'hui sont mariées, il y a une seulement qui n'est pas encore mariée. Mais alors, de toutes les façons, je les conseille, même celles qui sont, quand elles étaient encore jeunes là-bas, je vous ai donné l'expérience. Je leur dis, je viens avec un paquet de préservatifs, je dis, bon, voici. Vous devez vous protéger, parce que je ne peux pas vous dire, non, il ne faut pas faire ça. Mais si vraiment les besoins c'est santé, voici, il faut vous protéger. Ah non, papa, moi je ne peux pas toucher à ça, non, moi d'ailleurs, moi je suis ceci. Mais, quelques jours après, à ce moment-là, j'avais déjà la deuxième épouse, quelques jours après, j'ai dit, dépose ça sur l'armoire. On a déposé ça. Je vous dis, monsieur les journalistes, une semaine après, il n'y avait plus rien. Et puis après, les enfants commençaient à demander ce que papa, on peut pas, et c'est terminé, hein. C'est quoi le préservatif? Et leurs amis aussi venaient en chercher.
Le RENAVAC a un programme très vaste, n'est-ce pas? Prévention, lutte pour le meilleur être des personnes vivant avec le virus, plaidoyer, etc. Alors, quels sont les obstacles? Quels sont les problèmes que vous avez?
Les obstacles, les plus grands obstacles aujourd'hui, c'est les financements. Tellement qu'ils ne sont pas financés, tous les bailleurs sont partis. Et nous travaillons aujourd'hui qu'avec un seul lot. Et pas un bailleur des fonds, parce que MSF dit, lui, n'est pas bailleur des fonds. On a travaillé avec Provic, dans le cadre de l'USAID, et aujourd'hui, nous travaillons avec MSF Belgique. Nous avons beaucoup d'activités, mais qui n'a pas de financement. Nous avons le plaidoyer, et je vous dis qu'aujourd'hui, même ceux qui nous suivent doivent savoir que s'il y a l'argent, comme le ministre disait, il y a l'argent des contreparties, c'est grâce au RENAVAC. C'est nous qui avons bloqué les ministres devant le 6e. Vous n'entrez pas si vous nous dites, vous n'allez pas nous dire où se trouve, qu'est-ce que vous allez faire de l'argent des contreparties. Il nous a dit ça, nous, nous voulons savoir ce qu'il y a. Il nous a rassurés. Et puis après, nous sommes allés voir le Premier ministre. Il a donné les instructions, dire que non, il faut voir cet argent des contreparties, parce que nous avons dit, le Fonds mondial a dit, l'argent, s'il n'y a pas l'argent des contreparties, ça sera difficile que nous puissions financer la RDC. Alors nous avons dit, dans ces cas, si les fonds mondiaux, parce que les médicaments que nous prenons viennent que du fonds mondial, quelquefois des PEPFAR, et les PEPFAR, ISAID et les autres, mais surtout les PEPFAR. Et puis, s'il n'y en a pas, vous voyez, nous, comme le ministre a dit, nous qui sommes déjà sous traitement, nous serons où? Je crois que quand vous repasserez dans 3 mois, vous ne me reverrez plus. Alors nous faisons un effort dans le cadre de plaidoyer. Nous nous impliquons là-dedans. Personne ne peut faire le plaidoyer. Et le plaidoyer ici, le plaidoyer fort, sans RENAVAC. Ça, je le dis. Même s'il y a quelqu'un, quand vous allez rencontrer, il peut vous dire. Moi, j'ai les chiffres de l'UNGAS ici. Disons que l'UNGAS, c'est pour 2012-2013. Alors, en RDC, nous avons 283 809 personnes vivant avec le VIH-SIDA. Moi, je ne vous donne pas le pourcentage. Ça, c'est ce que nous avons. Donc, nous sommes, nous, personnes vivant avec le VIH-SIDA. Et puis, nous avons ceux qui sont éligibles. Éligibles, ce qui signifie, c'est qu'ils doivent avoir le traitement. Hein? Ils ont été devant le médecin. Le médecin a dit non, vous devez avoir le traitement. Ils sont combien? Ils sont 219 590. Ce sont ceux-là qui doivent être et qui doivent avoir le traitement. Mais combien qui ont les traitements aujourd'hui en RDC? C'est 64 000, le chiffre que le ministre vous a donné ici. 64 219 seulement. Donc le gap
que la RDC doit combler maintenant, c'est combien? C'est 155 371 PVV que la RDC est obligée de mettre maintenant sous traitement. Ceux-là ne sont pas sous traitement, mais ils sont éligibles. Et puis, il faut voir ces rapports ici, datent de 2012-2013. Parmi eux, il y a déjà ceux qui sont morts. Pourquoi? Par manque de quoi? De traitement. Vous allez comprendre. Et puis, maintenant, pourquoi ces gens-là ne sont pas mis sous traitement? Nous, en tant que personnes vivant avec les cette somme sur terrain, nous avons compris que les problèmes, tout d'abord, comme il a dit, les intrants posent problème ici, dans ce pays ici. Et pourquoi ça pose problème? Et aujourd'hui, on parle de l'argent des contreparties. Est-ce que vraiment le gouvernement qui doit concevoir le budget, nous, en tant que personnes, nous sommes allés voir le ministre du Plan, nous sommes allés voir le ministre de la Santé, celui qui l'a précédé, nous sommes allés voir le ministre du Budget pour leur dire que nécessairement, si nous voulons vraiment atteindre ces objectifs 10 millénaires, les trois objectifs, il faut nécessairement mettre le budget. C'est tout à fait comme le pays qui nous entoure ici. Nous leur avons dit ça. Et c'est à ces moments-là qu'ils ont dit non, l'argent des contreparties, ici, il n'y avait que PEV. PEV, c'est ce qui signifie programme de vaccination, là. C'est ce programme-là qui avait seulement l'argent des contreparties. On a lité, et c'est à peine qu'on venait, en 2014, qu'on a mis l'argent des contreparties. Et l'argent des contreparties, ça c'est par rapport au Fonds mondial. Parce que le Fonds mondial vous dit, moi je vais vous donner autant. Même le peuple phare aussi commence aussi à exiger ça. Moi je vais vous donner autant, mais vous, qu'est-ce que vous allez mettre? Hein? Moi, je vous donne par exemple 500 millions. Et vous, hein, quel est votre effort pour que moi je puisse marcher? C'était pas facile pour avoir ça. Bon, maintenant, nous avons aussi compris qu'après les intrants, il y a aussi la mauvaise gestion des médicaments. Je crois que le ministre vous a dit ici. Ici, il y a 3 PVV, on envoie beaucoup de médicaments. Là où il y a moins de PVV, là où il y a moins de PVV, on a beaucoup de médicaments. Là où il y a plus de PVV, on a moins de médicaments. Ça pose problème. Et tout ça, pourquoi? Vraiment, on ne peut pas réfléchir sur ça. Et ça fait depuis PNUD, Fonds mondial, je crois que mon jeune collègue est là. Nous avons lutté avec et ensemble, avec PNUD, pour leur dire non. Ces dysfonctionnements-là posent problème. Vous devez voir où mettre quoi et pourquoi vous allez le mettre. Donc c'est ça aussi qui pose problème. Un autre problème aussi, nous avons aussi l'écoute des IO. C'est pas, je crois que vous connaissez les IO, c'est-à-dire que les infections opportunistes. Il y a quelques fois, vous savez, si vous avez le temps de passer, parce qu'ils ont aussi notre santé, notre avenir passera chez moi, il verra des jeunes femmes, des jeunes filles qui sont là. Pourquoi? Parce qu'ils sont rejetés. Et puis, c'est la communauté qui devrait supporter toutes ces infections-là. Il y a un aujourd'hui qui doit être opéré. On est venu avec tout le quoi. Je suis allé voir les médecins sans frontières. Ils ont accepté la moitié. Et nous aussi, en tant que communautaires, nous devons mettre la moitié. Mais l'État doit prendre ses responsabilités.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Vous écoutez Votre Santé, Votre Avenir.
the best of me. You didn't get the best of me.
Quels sont les problèmes auxquels vous faites face en prévention?
Bon, en prévention, vous savez que pour le moment, nous avons des problèmes. Parce que la prévention qui est restée, c'est seulement le PTMI. Les gens disent qu'on va faire, des sensibilisations. Et puis après avoir fait une sensibilisation à 1000 personnes, vous n'avez que 3 ou 4 ou 5 positifs. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des préventions ciblées. Chez nous, maintenant, on fait des préventions ciblées pour comment? Ça s'est fait par les OAC. Et puis, nous avons aussi la prévention, ce que nous appelons la prévention positive. Donc la prévention positive, c'est ce que nous avons des OAC. Dans nos OAC, les PVV, il y a au moins 25 PVV qui se réunissent chaque samedi pour réfléchir, pour faire l'échange d'expériences, pour dire, attention, nous ne pouvons pas infecter les gens. Si nous infectons les gens, c'est ce que nous augmentons le nombre de quoi des personnes vivant avec le VIH-SIDA. Oui, le VIH, nous l'avons. Qu'est-ce que nous pouvons faire que le VIH-SIDA s'arrête ici chez nous? On échange d'expériences, tout ça, ainsi de suite. Ceux qui ont la mauvaise conduite, on leur dit, non, voici, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Si tu continues à faire ça, Dieu ne va pas te laisser vivre. Hein? Parce qu'il ne va pas accepter que tu continues à infecter les gens, tout ça. Tu vas te demander comment est-ce que tu vas mourir. Bon, ça aussi, c'est la prévention positive que nous faisons autour de nous, les PVV, pour qu'on puisse plus avoir de nouveaux cas, hein? Des infections. Hello. Alors, nous avons aussi nous avons ce que nous appelons la prise en charge médicale. Mais ce n'est pas vraiment médical en tant que communautaire. Nous avons ce que nous appelons les PODI, les postes de distribution des ARV. Ces postes de distribution des ARV, nous travaillons avec MSF Belgique. Et puis là, qu'est-ce que nous faisons? On disponibilise le médicament dans le PODI. Ce n'est pas nous qui traitons le gens. Ce n'est pas nous qui mettons les gens sous ARV, mais ce sont les médecins. Mais les patients qui sont stables, ceux qui sont devenus forts comme moi, ils ne peuvent pas aller se mettre devant le médecin pour attendre les médicaments du matin jusqu'au soir. Nous avons dit non, nous sommes capables de nous distribuer les médicaments entre nous. Et on a plaidoyé auprès des médecins belgiques. Ils ont accepté et nous avons essayé. Aujourd'hui, nous avons 3 PODI. Donc, quand vous allez là-bas, par exemple, ceux qui sont là sont venus toucher leur petite paye. Ils travaillent dans les PODI.
C'est quoi PODI?
PODI, c'est poste de distribution des ARV aux patients stables comme moi. Un patient stable, c'est celui qui est fort comme moi, qui ne tombe pas souvent malade.
Et OAC?
OAC, c'est organisation assise communautaire, mais nous ajoutons aussi OAC PVVIH, ce qui signifie OAC des personnes vivant avec le VIH-SIDA, parce qu'on peut avoir une OAC des tuberculés, on peut avoir une OAC des marchands, mais disons que nos OAC, ce sont les organisations assises communautaires des personnes vivant avec le VIH-SIDA. J'allais ajouter quelque chose. Oui. Sur le point de financement, nous avons travaillé avec Provic, hein, qui est une organisation de USAID. Hein. On a travaillé depuis le 31 que Ils ont dit, bon, ça s'arrête là pour toutes les, pour toutes les structures qui travaillent avec eux. Et maintenant, nous n'avons qu'un seul petit financement que nous sommes en train de travailler avec, c'est le financement de MSF Belgique. Et puis pour le moment, ici, je vous dis, en RDC, nous, en tant que Renoir, ça fait très longtemps, peut-être nous avons bénéficié de quelque chose pour le... Ça, c'était aussi dans le cadre des fonds mondiaux. Nous avons aussi travaillé avec le fonds mondial comme sous-récipiendaire, et puis c'était terminé. Et puis après, maintenant, pour le moment, nous avons comme petit financement, mais nous sommes en train de faire des projets par ici, par là. Même les enfants que vous avez vus là-bas, ils mangent, c'est quand nous avons l'argent, nous, dans nos poches. Moi, je peux avoir 5000 francs, je viens, je donne. Et puis, quelquefois, les mamans, les OAC là, peuvent récolter les histoires. Ils viennent, ils remettent ça pour ses enfants. Mais nous n'avons pas, nous n'avons, quand on était avec Issaïdé Provic, ils donnaient la farine de maïs, ils donnaient du lait, ils donnaient ça à ton père. Alors, on disponibilisait ça aussi pour ces jeunes gens. Ils, aujourd'hui, ils sont un peu moins nombreux. Les jeunes gens qui étaient là.
Ça manque.
Oui.
Il n'y en a plus.
Il n'y en a plus pour le moment. C'est que vous avez vu, ils ont dit qu'ils ont mangé que le matin, maintenant il faut le soir. Donc le soir, je dois me démener de ce que je puisse trouver un petit rien qu'on doit laisser là-bas pour qu'ils puissent préparer et manger.
Jean-Luc Ella, merci.
Merci Ralul et surtout merci à votre santé, votre avenir qui est venu nous voir parce que c'est difficile que les journalistes viennent aux malades.
Votre santé, votre avenir, c'est terminé. C'était un entretien exclusif avec M. Jean-Luc Ella, président du RENOAC à Kinshasa. Au micro, Khalil Gueye. Au revoir et à la semaine prochaine.
You can go back up enough.